Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, méditons ensemble sur le verset 261 de la sainte sourate Al-Baqarah. Notre frère Bouroumand vous en donne la lecture chantée, vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset prône la largesse qui est bien récompensée par Dieu.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق الله العلي العظيم.
Il est de ceux qui font largesse de leurs biens dans le sentier de Dieu, comme d'un grain d'où naissent sept épis à 100 grains l'épi, car Dieu multiplie en faveur de qui il veut. Dieu est immense, il sait.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver en ce vendredi 5 janvier 2024. Nous allons vous présenter le journal suivi d'un commentaire politique. L'Iran ripostera avec force et fermeté à toute menace et action du régime sioniste. Vous aurez ensuite la seconde partie de l'émission. Merci d'être avec nous. Madame, Monsieur, rebonjour, bienvenue à tous à la une de ce journal. Attaque terroriste en Iran, l'initiative est entre les mains des forces armées, a déclaré le président Raïsi ce vendredi. Israël a frappé Gaza avec 65 000 tonnes de missiles et de bombes. Et puis, les opérations de la résistance yéménite ont provoqué une augmentation de 173% des tarifs de transport maritime de conteneurs. C'étaient les principaux titres que nous allons tout de suite développer dans ce journal. Bienvenue à tous. Notre réponse aux attaques terroristes de Kerman sera déterminée par nos forces en lieu et en temps opportun, a déclaré ce vendredi le président iranien Ebrahim Raïsi. Le président iranien a affirmé que la réponse aux attaques terroristes de Kerman serait déterminée par les forces armées iraniennes en lieu et en temps opportun. Lors des funérailles vendredi des martyrs du double attentat terroriste dans la ville de Kerman, au sud-est de l'Iran, le président iranien a déclaré que le martyr Soleimani avait annoncé et renforcé l'axe de la résistance dans la région et développé des plans qui commencent aujourd'hui à porter leurs fruits. Le plan américain était de former un autre Israël dans la région, mais ce plan a échoué grâce aux efforts du Haj Rossem Soleimani, a-t-il affirmé. Il a réitéré que l'entité sioniste était incapable d'affronter la résistance palestinienne malgré les 90 jours écoulés depuis la guerre, mais que la résistance en Palestine avait été capable de faire face à l'occupation. Le président iranien a souligné que les cœurs du monde sont désormais plus que jamais tournés vers la Palestine et contre l'entité sioniste, considérant que la fin de l'opération Tempête d'Al-Aqsa marquerait la fin de l'entité sioniste qui massacre des femmes et des enfants à Gaza et que des Palestiniens s'en sortiraient haut la main. L'ennemi c'est que l'Iran est devenu un pays fort et que nos forces armées sont prêtes, a-t-il réaffirmé, avertissant que notre réponse aux attaques terroristes de Kerman sera déterminée par nos forces armées en lieu et en temps opportun. L'Iran est aujourd'hui devenu une puissance majeure grâce aux directives du leader de la révolution islamique, l'honorable Ayatollah Khamenei, et aux efforts du Haj Rossem Soleimani, s'est-il félicité. L'attentat terroriste à Kerman a échoué dans sa tentative d'induire l'insécurité en Iran. C'est ainsi qu'a réagi le corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran. Le CGRI affirme que la récente attaque terroriste aveugle et malveillante dans la ville de Kerman était une tentative ratée d'induire l'insécurité dans le pays. Dans un communiqué publié jeudi 4 janvier, le CGRI a condamné les deux attaques terroristes mercredi qui ont tué au moins 84 personnes et ont blessé plus de 200 autres, dont certaines sont dans un état critique. Les services médicaux indiquent que le bilan des victimes risque encore de s'alourdir. Les deux explosions ont eu lieu près du lieu de sépulture du défunt commandant antiterroriste iranien, le lieutenant général Rossem Soleimani, à Kerman, lors d'une cérémonie marquant son 4e anniversaire de martyr. Le CGRI a averti les lâches ennemis que la nation iranienne poursuivrait avec détermination le chemin du général Soleimani et les empêcherait d'atteindre leurs objectifs diaboliques. Le communiqué indique que les odieux attentats terroristes montrent que les ennemis sont incapables de compenser les défaites qu'ils ont subies face au général Soleimani. Israël a frappé Gaza avec 65 000 tonnes de missiles et de bombes, selon un rapport. Selon un rapport documenté, l'armée israélienne a utilisé plus de 65 000 tonnes de missiles et de bombes dans ses attaques génocidaires contre les civils de Gaza. Le régime israélien a largué plus de 65 000 tonnes de missiles et de bombes sur la bande de Gaza au cours de sa guerre génocidaire en cours contre la bande côtière de Gaza. Le bureau des médias du gouvernement de Gaza a fourni l'information dans un rapport jeudi 4 janvier. Les avions du régime sioniste ont largué plus de 45 000 missiles et bombes géantes, dont certains pesaient plus de 900 kg d'explosifs au cours de la guerre génocidaire contre la bande de Gaza assiégée, ciblant délibérément des zones résidentielles entières, a-t-il déploré. Autre thème, enfin, les opérations de la résistance yéménite ont provoqué une augmentation de 173% des tarifs, je vous le disais, en titre de transport maritime de conteneurs. Ce référent au FMI, Bloomberg, révèle qu'à la suite des opérations yéménites dans la mer Rouge, le transport dans le canal de Suez a diminué de 28%. Dans une note datant du 4 janvier, la plateforme Pat Watch du Fonds monétaire international FMI a signalé une diminution de 28% des transits de Suez sur un an au cours des 10 jours, se terminant le 2 janvier, détournant 3,1% du commerce mondial de la mer Rouge. Soulignant l'importance de la mer Rouge dans le traitement de plus de 19 000 transits de navires par an, le FMI a noté une réduction du trafic depuis le 16 décembre. L'armée yéménite a pris pour cible ces dernières semaines plusieurs navires du régime sioniste en mer Rouge et dans le détroit de Bab el-Mandeb en guise de soutien à la nation palestinienne et à la résistance dans la bande de Gaza sous blocus total. Fin de ce journal. Merci infiniment de votre attention. Dans quelques instants, notre commentaire politique. Restez avec nous. Merci. L'Iran ripostera avec force et fermeté à toute menace et action du régime sioniste, a déclaré le représentant iranien auprès de l'ONU. L'ambassadeur et représentant permanent de l'Iran auprès des Nations Unies a déclaré dans une lettre adressée au Conseil de sécurité que la République islamique d'Iran répondrait avec force et fermeté à toute menace et action du régime sioniste. Amir Saïdi Ravani, l'ambassadeur et représentant permanent de la République islamique d'Iran auprès des Nations Unies à New York, a écrit une lettre au chef du Conseil de sécurité, Nicolas de Rivière, au sujet de la violation flagrante et constante du droit international et de la Charte des Nations Unies par le régime sioniste contre la République islamique d'Iran. Suite à notre lettre du 25 septembre, je voudrais attirer l'attention des membres du Conseil de sécurité de l'ONU sur les violations continues et flagrantes du droit international et de la Charte des Nations Unies par le régime israélien contre la République islamique d'Iran. Le 30 décembre 2023, le premier ministre du régime israélien a continué de menacer de recourir à la force militaire contre l'Iran, couplé à la diffusion de fausses informations et de mensonges sur l'Iran, affirmant que nous agissons contre l'Iran tout le temps, partout, mais je ne vais pas entrer dans les détails. Il a en outre affirmé que l'objectif sur lequel je travaille depuis de nombreuses années reste le même, faire tout, n'importe quoi, pour empêcher l'Iran de se doter des armes nucléaires, peut-on lire dans la lettre du représentant iranien. Selon la lettre, ces déclarations belliqueuses défient de manière flagrante les principes fondamentaux du droit international et de la Charte des Nations Unies, en particulier l'article 2.4 de la Charte des Nations Unies. Cela semble également avoir pour objectif de détourner l'attention des atrocités commises par le régime israélien et de ses graves violations du droit international humanitaire dans la bande de Gaza et en Palestine occupée et d'échapper à toute responsabilité. En outre, cette position agressive et belliqueuse n'est pas sans précédent puisque le premier ministre israélien avait déjà menacé de recourir à la force militaire. La dernière violation de ce type a eu lieu le 22 septembre 2023 lors de son discours à la 78e session de l'Assemblée générale des Nations Unies où il a ouvertement menacé d'utiliser des armes nucléaires contre l'Iran. Dans une lettre datée du 25 septembre 2023, l'Iran a dénoncé cette grave violation, soulignant son importance et appelant à une condamnation ferme de la part de la communauté internationale. Le représentant iranien de poursuivre, le 28 décembre 2023, dans une tribune publiée par le Wall Street Journal, Naftali Bennett, ancien premier ministre du régime israélien, a explicitement reconnu l'implication d'Israël dans des actes de terrorisme et de sabotage sur le territoire iranien. En avançant des allégations sans fondement contre l'Iran, qui sont catégoriquement rejetées, Naftali Bennett a reconnu la responsabilité d'Israël dans les attaques terroristes en Iran et il a déclaré « En tant que Premier ministre, j'ai ordonné aux forces de sécurité israéliennes de faire payer à Téhéran sa décision de parrainer le terrorisme. » Il a affirmé qu'en réponse à deux attaques ratées de drones par l'Iran contre Israël, ce régime avait détruit une base de drones sur le sol iranien en février 2022. En outre, il a allégué qu'en mars 2022, l'unité terroriste iranienne avait tenté de cibler des touristes israéliens en Turquie, selon ses mots. Peu de temps après, le commandant de cette même unité a été assassiné au centre de Téhéran. De telles allégations servent indéniablement de preuves supplémentaires, renforçant la responsabilité internationale du régime israélien pour son implication dans des actes internationalement illicites, ainsi que dans des actes terroristes criminels sur le sol iranien. Les autorités israéliennes ont ouvertement reconnu leur complicité dans des assassinats et des actes de sabotage visant des responsables, des scientifiques et des civils iraniens. De plus, le régime israélien est impliqué dans des opérations de destruction et de sabotage visant l'infrastructure nucléaire pacifique iranienne menée à l'intérieur des frontières iraniennes. Dans nos correspondances précédentes, notamment les lettres datées de 28 juillet et 7 septembre 2022, ainsi qu'au 3 janvier et 1er février 2023, nous avons explicitement abordé et souligné la responsabilité du régime israélien. Dans cette lettre, l'ambassadeur et représentant permanent de l'Iran a réaffirmé que le régime israélien porte l'entière responsabilité de tous les actes internationalement illicites commis contre l'Iran et devrait être tenu pour responsable. Une condamnation urgente et une action décisive de la part de la communauté internationale, en particulier du Conseil de sécurité de l'ONU, s'avère impérative En réponse aux actes terroristes et aux activités déstabilisatrices d'Israël dans la région, en particulier ces crimes atroces en cours contre le peuple palestinien dans la bande de Gaza et en Cisjordanie, car ils constituent une grave menace à la paix et à la sécurité régionale et mondiale. La République islamique d'Iran réaffirme fermement ses droits légitimes et inhérents tels que stipulés par le droit international et la Charte des Nations Unies à répondre de manière décisive à toute menace et action illégale émanant du régime israélien. Elle réitère également sa détermination inébranlable à exercer ses droits pour sauvegarder sa sécurité, ses intérêts nationaux et sa population contre toute menace ou attaque.
Bonjour à tous, bienvenue avec nous dans ce nouveau numéro du débat. Le sujet toujours proposé dans ce débat étant la commémoration en mémoire du martyr de Qassem Soleimani, donc encore plus important certainement du fait de ce conflit qui a débuté le 7 octobre, en tout cas la réponse palestinienne face aux atrocités que font subir l'entité sioniste. Je vous propose tout d'abord de regarder notre reportage préparé à cet effet, où nous voyons le leader de la révolution islamique venir voir la famille du martyr. Je vous propose donc le reportage.
Le martyr Soleimani a revivifié le front de la résistance dans la région, selon le leader de la révolution islamique d'Iran. Le leader de la révolution islamique, l'honorable Ayatollah Khamenei, a reçu ce dimanche 31 décembre la famille du martyr Qassem Soleimani. Lors de cette rencontre, le leader de la révolution islamique a souligné que le général Soleimani a joué un rôle important dans la revivification du front de la résistance dans la région. Le martyr Soleimani a déployé de nombreux efforts pour relancer et restaurer le front de la résistance et il a mené ce travail avec sincérité, sagesse et éthique, rendant hommage aux efforts du général Qahani, commandant de la force ROTS du CGRI, le leader a déclaré qu'il fallait suivre cette lignée du renforcement du front de la résistance. La diplomatie iranienne qualifiant de lâche à l'époque l'assassinat par les États-Unis du général Soleimani a déclaré que l'Iran n'oublie ni ne pardonne ce crime. L'assassinat lâche du général Soleimani, le héros de la lutte contre le terrorisme dans notre région, était un meurtre arbitraire à une violation flagrante de la Charte des Nations Unies. C'est ainsi qu'a réagi Téhéran avant de préciser que les États-Unis sont responsables de cet acte odieux et leurs attaques verbales à l'adresse de l'ONU ne peuvent pas les blanchir. Selon les Nations Unies, la frappe de drone américain qui a tué l'éminent général iranien Qassem Soleimani et 9 autres personnes début janvier 2020 représente une violation du droit international et de la Charte de l'ONU. Une enquêteuse des Nations Unies aux droits de l'homme a déclaré que l'assassinat ciblé par les États-Unis du haut commandant iranien à Bagdad était un meurtre illégal en violation du droit international. Pour la République islamique d'Iran, l'assassinat par Washington du commandant en chef antiterroriste, le général Qassem Soleimani, était le plus grand cadeau des États-Unis au terrorisme Takfiri et à ses soutiens. Le monde devait apprécier la véritable bataille de ce haut commandant et ses compagnons de lutte contre le terrorisme et y rester redevable car leur lutte avisée et leurs efforts sincères ont empêché la propagation du terrorisme takfiri à travers le monde.
Nous revoilà donc dans les studios. Bonjour à nos deux invités, je les nomme, Maître André Chami, souvent présent avec nous sur Presse TV pour parler des actes terroristes dans la région. Bonjour Maître André Chami, ravi de vous avoir avec nous aujourd'hui.
Bonjour à vous tous, merci pour votre invitation. Et surtout, je profite de l'occasion pour souhaiter à tous et à toutes une excellente année 2024, pour qu'elle soit cette année l'année de l'espoir, de l'espérance, des grandes victoires personnelles et collectives.
Merci Maître André Chami pour vos voeux.
Je tiens à saluer également votre invitée, Madame Obala, qui est une excellente politologue et qui travaille énormément sur les thèmes d'actualité que vous traitez.
Merci Maître André Chami. Une bonne année 2024 à vous aussi. Merci de rester notre expert à Presse TV malgré les pressions que vous pouvez parfois avoir. Notre deuxième invité, vous l'aurez compris, c'est le professeur et politologue Ada Obola. Bonjour professeur, ravi de vous avoir avec nous aujourd'hui.
Oui, alors merci encore une fois pour m'avoir invité à votre propos et je joue à ma voix à notre cher invité, M. André Chami. Merci pour ça. Ces remarques qui me touchent énormément. Et donc, lançons le débat.
Tout à fait. Alors, on va commencer par vous, professeur, si vous le voulez bien. Alors, on sait que Qassem Soleimani, avant même d'éventuellement unifier la résistance palestinienne qui était extrêmement désunifiée, hein, si on se rappelle, il y a quelques années, 5 ans, 6 ans, c'était le problème principal de la Palestine. Les Palestiniens ne s'en rendaient pas. En tout cas, la résistance palestinienne ne s'en rendait pas. Il y a eu Daesh, il y a eu Daesh en Irak, il y a eu Daesh en Syrie. Et c'est là que le dernier travail, j'ai envie de dire, le dernier travail d'aboutissement de Qassem Soleimani en impliquant notamment la Russie dans la région, en Syrie notamment, a permis en fait une sorte de solidification de la résistance. Tout d'un coup, les pays ont compris qu'ils devaient se battre pour leur souveraineté. Vous-même, comment analysez-vous tout ce travail de ces dernières années de vie du martyr Qassem Soleimani, s'il vous plaît?
Oui, alors Qassem Soleimani, revient un petit peu sur l'assassinat Qassem Soleimani qui a eu lieu sur le territoire irakien, donc qui était une violation de la souveraineté du territoire irakien d'une part, une violation de la souveraineté de la République islamique de l'Iran, puisque Qassem Soleimani représentait les gardiens de la révolution, la brigade Al-Quds, et donc on sait très bien que les gardiens de la révolution islamique sont inscrits à l'intérieur de la Constitution, donc c'est un fonctionnaire public, si on peut s'exprimer ainsi, donc c'est également une violation à la souveraineté de l'Iran. Et ce qui est extraordinaire dans la riposte de la République islamique de l'Iran, c'est qu'elle a invoqué la légitime défense, qui, selon l'article 51 de la Charte des Nations Unies, est un droit naturel limité au cas où il y a eu une agression directe armée contre soit un représentant d'un État qui représente la souveraineté, soit contre le territoire. Et donc, on comprend à ce moment-là que l'Iran a riposté à cette agression en bombardant base militaire américaine. Les États-Unis ne pouvaient plus répondre puisque la riposte même de la République islamique de l'Iran est purement légitime, d'une part. D'autre part, effectivement, durant les dernières années que Qassem Soleimani a vécu, c'est-à-dire surtout après la guerre Iran-Irak, avec à partir de 2009, je crois, il y a eu Daesh dans la région. Qassem Soleimani ne cessait de se déplacer entre l'Irak, entre la Syrie et aussi, sans que ce soit annoncé, il était également en Palestine occupée. Et en Palestine occupée, il a lancé deux choses qui étaient déjà lancées par le chef de la résistance islamique au Liban. Je fais allusion au martyr Imad Mouni qui a été assassiné en Syrie. Avant son assassinat, je parle du général Imad Mouni, Il avait affirmé que, de toute façon, je laisse derrière moi pour 10 années. Et je pense que ce plan a été exécuté plus tard par Qassem Soleimani, et également Qassem Soleimani, avant justement de tomber en martyr, a laissé derrière lui également divers plans concernant la libération de la Palestine occupée. Entre autres, parmi cet objectif, c'est-à-dire libérer la Palestine de l'entité sioniste, il s'agissait d'abord, comme vous l'avez bien souligné, de renforcer l'unité palestinienne, d'une part, c'est ce qu'il a fait, et d'autre, c'est-à-dire, et ceci, c'est a été, on a pu le constater sur le terrain, durant la bataille de l'épée Al-Quds, où on a commencé à entendre de la part de la résistance palestinienne qu'il y avait une chambre commune de toutes les factions de la résistance palestinienne qui, en fait, étaient en train de coordonner leur opération contre l'entité sioniste, d'une part. D'autre part, il a réalisé un deuxième objectif, c'est-à-dire l'unité des arènes de l'axe de la résistance, c'est-à-dire si la résistance palestinienne est agressée en Palestine occupée, ou bien si le Liban est agressé, ou bien si la Syrie est agressée, à ce moment-là, il y a les diverses arènes de l'axe de la résistance pouvaient également intervenir. Et c'est ce qu'on a constaté actuellement dans le déluge à l'Aqsa, où on constate qu'à partir du moment où il y a eu une agression sans précédent, plutôt dans la rhétorique des Occidentaux, il s'agit d'une riposte, mais il est clair qu'il s'agit non pas d'une agression sauvage uniquement, mais en termes de droit international économique, il s'agit de crimes de guerre, voire de génocide. Donc, à ce moment-là, automatiquement, on a constaté que la résistance islamique au Liban a riposté contre l'entité sioniste. Et à chaque fois, dans tous les communiqués que la résistance islamique au Liban était en train de diffuser quant à martyrs tombés de la part de la résistance islamique, c'était toujours dans le cadre du soutien au peuple palestinien, à la cause palestinienne à Gaza. Également dans les communiqués de la résistance islamique en Irak, également dans les communiqués, dans les opérations que les Houthis sont en train de faire, que ce soit contre les navires qui hissent un pavillon israélien ou les navires qui ne hisse pas un pavillon israélien, mais qui se dirige vers l'entité sioniste. En Irak, on a vu qu'il y a eu plusieurs bombardements contre des bases militaires américaines qui se trouvent sur la frontière irako-libanaise, également sous le titre en soutien à la cause palestinienne à Gaza. Et toutes ces arènes sont d'accord pour dire, pour affirmer haut et fort qu'il n'est pas question de ces opérations, sauf si l'entité sioniste cesse son agression à Gaza.
Merci, professeur Obola. Maître André Chamy, on vient vers vous en se rappelant en fait de la réaction européenne, parce qu'on rappelle encore une fois que c'était sous ordre à l'époque du président Donald Trump que l'assassinat, et on l'utilise avec un mot précis parce qu'il y a des preuves, c'est prouvé que c'est bien sous ordre de Donald Trump qu'il y a eu l'assassinat de Qassem Soleimani et de ses compagnons. On se rappelle encore de la réaction européenne qui était extrêmement choquée au vu surtout que Qassem Soleimani a été le champion même des Européens concernant la guerre contre le terrorisme.
Vous savez, je commence par mon propos par vous dire qu'il y a 4 personnages qui ont marqué ces 40 dernières années. Le premier personnage, c'est indiscutablement l'imam Khamenei. Le deuxième personnage, c'est l'imam Khomeini. Je le dis dans le désordre, pas forcément dans l'ordre chronologique. Le troisième personnage, c'est indiscutablement le général Soleimani. Et le quatrième personnage, c'est Saïd Hassan Nasrallah. Je m'explique. Ces personnalités, et je dirais encore, il y a un cinquième personnage qui aurait pu en faire partie, mais malheureusement, le temps ne lui a pas été laissé pour s'affirmer, en l'occurrence Saïd Abbas al-Moussaoui. Ces 4 personnalités ont marqué leur temps et ont marqué l'histoire, non seulement de leur propre pays, mais également de la région, pour ne pas dire de la politique internationale. Parce que ces personnalités-là ont une vision et ont également mis les moyens pour exécuter leur vision, pour parvenir à plusieurs objectifs. Le premier objectif, c'est la moralisation de la vie politique. Et ça, c'est important dans un monde où la politique joue un rôle pourri, pour ne pas dire autre chose, puisqu'on en arrive à des rôles criminels et à assister à des crimes de guerre fomentés ou directement exécutés par ces États qui donnent des leçons de morale aux autres pays au nom de la démocratie et de la liberté. Ça, c'est la première observation. La deuxième observation, c'est que non seulement ils avaient une vision, mais également ils mettaient à exécution cette vision. Troisièmement, ils ont mis autour d'eux une vague qui devait d'emporter d'autres pays dans leur, dans leur élan, puisque ça a permis la création de ce qu'on appelle aujourd'hui l'axe de la résistance. On a l'impression que cet axe est tombé comme ça du ciel, mais non, cet axe est la construction de ces quatre personnalités, parce que ils avaient cette vision, c'est de se libérer et de libérer les peuples du monde entier, puisque maintenant on a dépassé même les océans et on a dépassé les mers pour attirer d'autres pays comme le Venezuela, le Cuba et bien d'autres pays en Afrique, en Amérique latine qui ont maintenant cette même vision et qui veulent aller dans ce sens-là. Et c'est dans ce sens-là, d'ailleurs, que l'on voit la position de l'Afrique du Sud aux côtés du peuple palestinien et dans la dénonciation des massacres commis contre le peuple palestinien. Ce n'est pas juste une idée juridique, c'est une vision et c'est une mise en action de cette vision. Et le point fondamental, c'est, moi j'appelle, l'unification des champs d'action. C'est-à-dire, comme l'a rappelé Mme Obala, ce n'est pas l'Irak qui est concerné, ce n'est pas la Syrie qui est concernée, ce n'est pas le Liban qui est concerné, ce n'est pas la Palestine ou l'Iran qui sont concernés, c'est l'ensemble de ces champs de bataille, puisque chacun de ces pays est devenu un champ de bataille pour entamer sa guerre, mais cette guerre n'est pas une guerre d'agression, c'est une guerre de libération, c'est une guerre qui a l'idée d'exécuter cette vision, c'est-à-dire de sortir du poids, de la pesanteur de ces pays occidentaux qui massacrent des populations, qui même valident les massacres contre ces populations par des discours complices, comme dire qu'Israël est en train de pratiquer la légitime défense. Mais quelle légitime défense? Et déjà, quelle attaque? Personne ne parle de cette attaque et personne ne parle de la, je dirais, de la notion de légitime défense. Et nous sommes donc, dans tous ces pays-là, dans l'idée, il faut casser cette vision occidentale, il faut casser cette vision du monde colonial et le transformer en monde libre, en monde qui veut se débarrasser de cette idée-là, d'accepter ce néocolonialisme et qui est indiscutablement dominé par les États-Unis et par les pays satellites, dont les pays de l'OTAN, mais également l'essentiel des pays européens. Cette situation-là n'est plus supportable et c'est là que l'on voit la vision de l'imam Khomeini, la vision de l'imam Khamenei, la vision de Saïd Hassan Nasrallah et la vision du général Soleimani. Et ces personnalités ont consacré leur vie et continuent de consacrer leur vie, c'est comme ça que je résume la situation, à cette guerre de libération d'abord des esprits, deuxièmement des actions et troisièmement la libération des moyens mis en place pour parvenir à réaliser ce qui se passe, parce que sans cela, nous n'arriverons jamais à libérer les peuples du monde, de ce qui emporte comme volonté et surtout comme capacité de se libérer. Là, aujourd'hui, tout est mis en action et là, j'ai envie de dire, nous avons un échantillon, avec tout le respect que je dois à la résistance palestinienne, ça représente uniquement, et vous m'entendez bien, c'est uniquement un échantillon parce que ce qui viendra dans les prochaines années va être d'une ampleur colossale que personne ne peut imaginer et nous verrons à ce moment-là la véritable libération qui va donner le ton au monde entier que la victoire n'est pas une fatalité et la défaite n'est pas une fatalité. On sort de la fatalité de la défaite pour arriver aux moyens mis en place pour réaliser la grande victoire.
Merci, Maître André Chami. Alors, Manar Adaobola, on sait qu'aujourd'hui, 1er janvier 2024, symbolise une chose, l'entrée de plusieurs pays dans les BRICS, dont en particulier l'Iran, un sujet donc qui nous intéresse. Alors, pourquoi je parle des BRICS? C'est parce qu'on sait aussi que l'Iran, depuis le début de ce 7 octobre, a bien indiqué qu'il respectait la souveraineté palestinienne, que quel que soit le vœu de la Palestine concernant la Palestine, eh bien, ça ne restera qu'une décision. Parce qu'on sait aussi que depuis plusieurs jours, mais c'était déjà le cas au début du conflit, on poussait les Palestiniens à aller dans le désert du Sinaï et toutes les décisions ont été données aux Palestiniens. Alors, c'est bien montré pour bien montrer que l'Iran ne s'implique pas officiellement par souveraineté concernant la Palestine. Les Palestiniens se garde de prendre les décisions, se garde également de se protéger. Qu'est-ce que vous avez envie de dire par rapport à cette vision-là, sachant que l'Iran a aidé, grâce au martyr Qassem Soleimani, à cette unification de la résistance? Est-ce que c'est un moyen de dire, voilà, nous avons juste aidé, c'était notre moyen à nous de permettre à ce que les pays sortent de leur conflit perpétuel? On parle de 75 ans de conflit.
Oui, mais alors, avant de répondre à vos questions, je peux ajouter quelque chose qu'a dit M. André Chami, la morale de la guerre, entre guillemets. Je suis tout à fait d'accord avec lui. J'ajouterai quelque chose de plus. Je ne sais pas si le terme est juste. Il y a une forte, de la part de la résistance, on constate qu'il y a une forme de humanisation de la guerre. C'est-à-dire que dans le cadre du droit international humanitaire, toutes les ripostes de l'axe de la résistance, des forces de l'axe de la résistance, sont des ripostes qui respectent le droit international humanitaire. C'est-à-dire quand il s'agit pas de bombarder des civils, sauf s'il y a un bombardement des civils. C'est ce que a sans cesse répété le secrétaire général du Hezbollah, Saïd Hassan Nasrallah. Mais alors que du côté adverse, on constate qu'il y a une volonté de cibler les civils, voire de les massacrer, d'une part. Et donc, face au jeu de la guerre, l'axe de la résistance a prouvé qu'elle était en fait humanitaire, d'une certaine manière. Et donc, on constate au cadre de la résistance islamique, surtout chez le général Qassem Soleimani, excusez-moi, et là je tiens à le préciser, c'est que qu'est-ce qui caractérise le général Qassem Soleimani par rapport au général Emad Mournier, c'est qu'il était très spirituel. Dans quel sens? Moi, si vous permettez, je vais parler de mon expérience personnelle. Moi, je ne le connais pas, le général Qassem Soleimani, et je ne l'ai connu que quand il est tombé en martyr, c'est-à-dire que j'ai appris sur son existence. Ce qui s'est passé, c'est que on a constaté que la première ville qui a accueilli le corps du général Soleimani, c'est Ahwaz. Ahwaz, là où il y a des Arabes, c'est-à-dire là, en 2018, attentat contre les gardiens de la révolution islamique. Et ça a été un choc pour justement les États-Unis, parce que jamais ils auraient pu imaginer que ce général allait être hissé en tant que héros à partir de cette ville, la ville d'Ahwaz, où il y a une majorité de sunnites, premièrement. Et deuxièmement, quand j'ai eu l'occasion d'aller en Iran pour dans le cadre de séminaires, j'ai visité donc la tombe du général Qassem Soleimani. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé, mais j'ai pleuré comme pas possible, alors que je ne le connaissais pas. Et pourquoi on parle de cette expérience spirituelle? Parce que cette spiritualité, j'ai demandé autour de moi, que ce soit au Liban, que en Iran, que ce soit en Syrie, tous ne savaient pas pourquoi ils pleuraient le général Qassem Soleimani. C'est-à-dire, c'est comme s'il avait transcendé toutes les différences, je suis obligée de dire, sunnites, chiites. Il ne faut pas oublier que Hamas, ce sont les frères musulmans, alors que Qassem Soleimani était à leur côté et qu'il les a convaincus à unir pas seulement les factions de la résistance islamique, avec le djihad islamique qui est pro-iranien, on le sait, mais avec toutes les arènes justement de la résistance islamique, dont certains, il y a des chiites, il y a des sunnites. c'est un événement extraordinaire qui a eu lieu avec le martyr général Qassem Soleimani. Alors que les États-Unis, ils misaient sur le fait que si on tue Qassem Soleimani, oui, il sera considéré comme un chiite qui a été tué. Ce n'est pas le cas. Donc, effectivement, il y a eu une humanisation. Maintenant, pour revenir à votre question, excusez-moi.
Alors, malheureusement, c'est de là qu'on va se finir notre débat. Je suis désolée. J'aurais bien voulu qu'on ouvre le sujet avec ces dernières déclarations du leader de la révolution islamique sur le fait que l'Iran respecte la souveraineté palestinienne et n'était pas impliqué dans ce qui se passait en Palestine. Malheureusement, nous n'avons pas le temps. Éventuellement, un autre sujet du débat, pourquoi pas avec vous, professeur Obola, pour répondre à cette question. Je vous remercie, chers invités, de nous avoir rejoints dans ce débat au nom du martyr Qassem Soleimani, qui a autant investi de sa personne et de son temps dans l'unification de la résistance, mais surtout dans la pacification de la région. C'est surtout ça le mot, finalement, de fin. Je vous remercie encore une fois, chers invités. Je vous dis, vous, chers auditeurs, à bientôt pour un autre sujet du débat. Au revoir.
Mesdames, Messieurs, chers auditeurs et auditrices, bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle émission qui porte sur l'attentat terroriste à Kerman en Iran. Le groupe terroriste Daesh a revendiqué dans un communiqué l'attentat terroriste qui a coûté la vie à 84 personnes qui allaient se recueillir sur la tombe du martyr Qassem Soleimani à Kerman. Le groupe terroriste Daesh a également affirmé qu'Omar al-Mofed et Saifullah, deux de ses membres, étaient les deux acteurs de cet attentat terroriste qui ont activé leur ceinture explosive. Les deux explosions sont survenues mercredi après-midi 3 janvier sur la route menant au cimetière des martyrs à Kerman. Elles ont fait 84 martyrs et 284 blessés, ce qui a suscité la condamnation de divers pays et groupes. Condamnant les attentats terroristes à Kerman, les gouvernements du Mexique, du Venezuela, de Cuba et du Nicaragua ont présenté leurs condoléances au peuple et au gouvernement iranien. Les gouvernements d'Irak, d'Oman, du Qatar, d'Arabie Saoudite, de Turquie et de Russie, ainsi que les Nations Unies, l'Allemagne, la France, les Pays-Bas, l'Irlande et la Norvège ont également fermement condamné l'attaque terroriste et présenté leurs condoléances. Dans des messages séparés, le président syrien a présenté ses condoléances au leader de la révolution islamique et à son homologue iranien, la mort martyr des dizaines de civils suite à l'attentat terroriste perpétré lors d'un hommage à l'ancien commandant en chef de la force ROTS du CGRI, le lieutenant-général Qassem Soleimani. Le président syrien Bachar Assad a exprimé sa sincère sympathie au leader de la révolution islamique, l'honorable Ayatollah Khamenei, et au peuple iranien, souhaitant un prompt rétablissement aux blessés. Le président Assad a souligné que ces attaques terroristes visent à contraindre notre peuple à renoncer à ses principes et à ses intérêts et à le rendre incapable de défendre la souveraineté et la dignité de son pays. Al-Mayadeen a rapporté que, dans son message de condoléances au président iranien, le président Assad a condamné les explosions terroristes à Kerman et a déclaré « Ces attaques terroristes visant des civils montrent l'impuissance des terroristes et de leur soutien. Suscitant une large condamnation régionale et internationale, les attentats terroristes survenus mercredi après-midi 3 janvier sur la route menant au cimetière des martyrs à Kerman ont fait 84 morts et 284 blessés. En Iran, le ministre des Affaires étrangères Hossein Amir Abdollahian a annoncé que Téhéran a commencé à prendre des mesures juridiques et internationales par l'intermédiaire de l'ONU pour traduire en justice tous les responsables des deux récents attentats à la bombe perpétrés à Kerman. Sur la base des premières informations obtenues des sources officielles, le ministère des Affaires étrangères a lancé une procédure juridique et internationale par l'intermédiaire des Nations Unies, a écrit ce jeudi 4 janvier le ministre iranien sur X. Le recours à de tels crimes pervers contre des citoyens iraniens renforce davantage le lien de la nation avec les idéaux du martyr Qassem Soleimani, a-t-il indiqué. En réaction à l'attaque terroriste de Kerman, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères Wang Wenbin a souligné la nécessité de soutenir les efforts de l'Iran pour maintenir sa sécurité et sa stabilité nationale. Nous exprimons nos condoléances aux familles des victimes et notre sincère sympathie aux familles endeuillées et aux personnes blessées, a déclaré jeudi le haut diplomate chinois lors d'un point de presse quotidien, ajoutant que la Chine s'opposait fermement à toutes les formes de terrorisme. Par ailleurs, l'ambassadeur permanent de la République islamique d'Iran auprès des Nations Unies, Amir Saïd Iravani, s'est adressé dans une lettre mercredi au secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, et au Conseil de sécurité des Nations Unies. L'Iran utilisera tous les mécanismes disponibles pour garantir que les auteurs des attaques terroristes extrêmement meurtrières qui ont visé la ville iranienne de Kerman dans le sud-ouest de l'Iran répondent de leurs actes. Ces attaques sont un acte terroriste odieux et un crime épouvantable, a dénoncé le diplomate iranien. Cet acte répréhensible, a déclaré l'ambassadeur iranien, visait délibérément des personnes innocentes. L'envoyé iranien a affirmé que des enquêtes approfondies étaient en cours pour identifier et appréhender les auteurs et les organisateurs de ce crime prémédité. Il a souligné une fois de plus que l'Iran restait ferme tant dans la quête de justice pour les victimes que dans la lutte continue du pays contre le terrorisme. Les condamnations ont afflué suite aux explosions. Le mouvement de résistance palestinien Hamas a condamné ces attaques qu'il considère comme servant les intérêts du régime sioniste et ses sinistres plans contre la sécurité et la sûreté des peuples de la région. Par ailleurs, le ministère des Affaires étrangères d'Arabie Saoudite a condamné ces attaques terroristes et a présenté ses condoléances à la République islamique d'Iran. Les dirigeants de la Russie, de la Turquie, de l'Irak, du Pakistan, du Yémen et d'autres pays du monde ont également publié des déclarations condamnant cette tragédie. Par ailleurs, et en réaction aux attentats terroristes à Kerman, le président iranien Sayed Ibrahim Raisi a déclaré que les ennemis de la nation iranienne s'imaginaient qu'ils puissent atteindre leurs objectifs illégitimes en recourant à la terreur, mais que la nation iranienne avait prouvé que de tels crimes ne pourraient saper son unité, sa sécurité et sa stratégie. Le président Raisi a tenu ses propos mercredi soir 3 janvier alors qu'il recevait un appel téléphonique de son homologue turc Recep Tayyip Erdogan. Ces attentats terroristes ont eu lieu à proximité de la tombe d'un martyr connu comme un héros dans la lutte contre le terrorisme et la violence dans la région, a souligné le président Raisi. Le président turc, qui avait auparavant transmis ses condoléances écrites au gouvernement iranien, a déclaré « J'ai jugé nécessaire de vous exprimer personnellement ma sympathie et mes condoléances concernant cette odieuse attaque terroriste ». Erdogan a condamné le double attentat terroriste de Kerman. Ces attaques ont une fois de plus clairement montré la nécessité de lutter de manière décisive contre toutes les formes de terrorisme et la Turquie se tient aux côtés de la République islamique d'Iran. Il a par ailleurs ajouté « La nation turque partage la douleur et la souffrance de la nation iranienne. Je présente mes condoléances au peuple frère et ami d'Iran du fond du cœur et je demande au Dieu Tout-Puissant le pardon et la grâce divine pour les martyrs de ces attentats et le prompt rétablissement pour des blessés. »
Thank you.